Et au menu de notre club cet après-midi, des loups, des chercheurs et un enfant sauvage. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui, nous essaierons de comprendre quel est le profil psychologique du nouveau président américain.
Eh oui, mensonges à répétition, agressivité, impulsivité, machiavélisme, des traits de la personnalité de Trump qui sont aussi ceux d'un parfait psychopathe. Le nouveau président américain est-il un malade mental? On en discute avec le psychopédagogue Bruno Humbeck.
Et voilà pour le sommaire de l'émission qui est réalisé par Stéphanie avec ces dossiers préparés par Chantal Le Montagnier avec Pierre de Certaine.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et dans notre club, nous allons discuter avec la préhistorienne Marilène Patoumatis, la réalisatrice Geneviève Anouri, la physicienne Myriam Panettier-Lecoeur, l'historien Jean-Luc Chappet et l'éthologue Pierre Jouventin. Vous êtes cinq, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Marilène Patoumatis, l'animal dans tous ses états, c'est un cycle de conférences au Musée de l'Homme et ce mois-ci on a rendez-vous avec le loup et l'agneau.
Tout à fait, c'est-à-dire que là il y a vraiment un couple d'opposés et on essaie d'aller de son histoire très lointaine à aujourd'hui.
Pierre Jouventin, vous viendrez parler du loup donc jeudi prochain au Musée de l'Homme. Pourquoi cet animal est toujours un sujet aussi épidermique en France ?
Ben, je pense qu'il est trop proche de l'homme, c'est-à-dire qu'il est tellement adaptable qu'il se trouve toujours en rival et que donc ça peut pas se régler à l'amiable, ça, c'est toujours une guerre.
Geneviève Anouri, pourquoi cherchez-vous ? C'est une web-série que vous avez réalisée pour Universcience et c'est la question que vous avez posée à 23 chercheurs, c'est ça ?
23 chercheurs et je leur ai posé des questions sur le processus de pensée, sur l'imaginaire, sur cette façon qu'ils ont d'aborder le réel, de lui tordre le cou, lui poser des questions et ça m'a vraiment intéressé de questionner ça.
Et de le filmer. On en parlera tout à l'heure avec vous également, Myriam Panettier-Lecoeur, puisque vous êtes dans cette web-série, vous êtes physicienne. Et vous cherchez quoi dans votre domaine ?
Je cherche des capteurs magnétiques pour arriver à mesurer le signal neuronal, donc le signal qui est transmis dans le cerveau.
Ouais, et vous parlez beaucoup de l'intuition, de l'inspiration également. Hein. Ce sera l'objet de notre discussion tout à l'heure. Jean-Luc Chappet, vous publiez « Sauvagerie et civilisation, une histoire politique de Victor de l'Aveyron ». C'est aux éditions Fayard. Victor, c'est l'enfant sauvage qui a inspiré François Truffaut. Pourquoi une histoire politique autour de cet enfant ?
Il s'agissait justement de déconstruire un certain nombre d'idées reçues sur cet enfant et de le resituer dans un contexte politique et intellectuel plus précis.
On va se retrouver donc dans un instant pour discuter de tous ces sujets avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et Donald Trump à la Maison Blanche aujourd'hui, c'est la réalité et nous entrons aujourd'hui dans sa tête à la une de la science.
Donald Trump affirme qu'il ne l'a pas fait, mais nous avons la vidéo qui prouve qu'il l'a fait. Du coup, on ne saura jamais la vérité. Il va falloir s'habituer les quatre prochaines années à ce que Donald Trump et les siens disent que ce que nous voyons de nos propres yeux n'est jamais arrivé.
Et c'est l'humoriste américain Trevor Noah qui ironise sur les mensonges incessants de Trump pour introduire cette une. Le mensonge est honté, mais aussi l'agressivité, la démesure. Quelques traits de la personnalité du président Trump qui amènent des psychologues américains à se poser la question de sa santé mentale. Certains, comme Kevin Dutton ou Robert Klitzman, franchissent le pas dans la presse et posent directement la question « Donald Trump est-il un psychopathe ?» Pour tenter de répondre à cette question, eh bien nous sommes au téléphone avec vous, Bruno Humbeck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychopédagogue à l'université de Mons en Belgique. Alors avant d'aborder le cas Trump, comment on définit la personnalité d'un psychopathe ?
Alors justement, on ne peut pas parler de personnalité psychopathe ou non psychopathe. Hein. C'est pas un diagnostic binaire. Hein. C'est une tendance à manifester des comportements psychopathes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des échelles qui évaluent le niveau de psychopathie et qu'on n'a pas à un moment donné des diagnostics qui font un état statique. Donc je ne saurais pas vous dire Trump est un psychopathe, mais je peux sans doute, sur base de ce qu'on peut supposer comme réponse sur une échelle, envisager qu'il développe un certain nombre de comportements qui laissent évoquer un haut degré de psychopathie.
Et ben justement, alors quels sont les arguments concrets que vos confrères avancent pour dire que le président américain est malade ?
Alors, très clairement, il dysfonctionne. C'est-à-dire qu'il a un profil atypique. Et si vous évaluez, par exemple, son niveau d'impulsivité, d'agressivité, de machiavélisme, qui sont trois échelles qui permettent de mesurer le niveau de psychopathie, vous allez sans doute avoir des scores relativement élevés. Ce qui explique qu'il va mentir, par exemple, mais pas comme un menteur pathologique qui croirait à ses propres mensonges, mais comme un menteur qui va utiliser le mensonge pour obtenir le pouvoir. Et qui va aussi utiliser le faible système de critique de ses électeurs potentiels, hein. C'est-à-dire qu'il peut très bien mentir, les gens savent qu'il ment, mais disent qu'il y a quand même bien raison de mentir. Donc, sur ces trois niveaux d'échelle, il va faire des scores, à mon avis, canon. Il va aussi avoir un score particulièrement faible en empathie, ça le manifeste très souvent, hein. Il peut casser les gens, il se met difficilement à leur place. Par contre, ce qui va éviter d'avoir un diagnostic sans nuance, c'est ce qu'on constate chez lui, c'est-à-dire un processus affiliatif qui fonctionne pas mal. Quand on voit les relations qu'il a avec ses propres enfants, même avec son père, même si tout n'est pas toujours très rose, mais on sent qu'il y a une affiliation qui est réussie, ce qui fait que si vous le comparez à des figures de psychopathes célèbres, genre Hannibal Lecter, ben vous allez avoir effectivement des mécanismes qui sont un peu différents.
Ah oui, vous n'allez pas être le dos de la cuillère quand même.
Oui, non. Mais on parle en image, donc on n'est pas dans le profil du psychopathe, mais on est dans des tendance de la psychopathie, qui laisse plus interroger bah, finalement le processus de pouvoir, parce que vous ne devenez pas psychopathe par hasard, hein, vous le devez si on vous donne par exemple un pouvoir absolu et que vous avez une tendance à la démesure. Le pouvoir absolu, le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou. Et sans doute encore davantage si vous avez une tendance à la démesure. Donc c'est ça qui est relativement dangereux dans le cas de Trump, c'est qu'on a affaire à un profil qui démontre des traits qui laisse évoquer de la démesure, éventuellement une psychopathie, mais surtout, vous avez à un moment donné quelqu'un qui risque d'avoir un pouvoir qui le dépasse. On le voit aussi, même l'investiture, par exemple, eh bien, quand on voit la manière dont c'est mis en scène, si vous avez des tendances mégalomaniaques, vous allez les développer beaucoup plus si on vous met dans cette posture-là.
Alors, justement, qu'est-ce que pourrait être le devenir d'un homme qui manifeste ses troubles et à qui on donne trop de pouvoir ?
Alors, ce qu'il faut espérer, et je pense quand même que ces garde-fous existent, et le mot garde-fou n'a jamais autant bien porté son nom, hein. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné des instruments de contrôle du processus démocratique. Les démocraties plus avancées, comme en principe le sont les États-Unis, mettent en place des procédures de contrôle qui vous donnent parfois l'illusion d'un pouvoir absolu, mais qui en réalité permettent de le mesurer, de le diminuer dans les faits. Donc vous prenez une décision, eh bien elle va de toute façon être évaluée par d'autres que vous à un moment ou l'autre. Ce qui explique que dans certaines fausses démocraties ou dictatures, là on a des gens qui sont mis en position de développer leurs démesures et qui alors semblent réellement manifester des profils de psychopathes. Hein. On n'est pas psychopathe dans l'absolu. Les psychopathes d'un jour sont les héros du lendemain. Hein. En situation de guerre, ça devient des héros. Donc il faut toujours tenir compte du contexte quand on évalue un symptôme, notamment un symptôme psychiatrique de cet ordre.
Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un des auteurs dont on parlait tout à l'heure, là, Kevin Dutton, qui s'est amusé grâce aux échelles à comparer le niveau de psychopathie de personnalité historique. Et selon ses travaux, Donald Trump arrive devant Napoléon Bonaparte, devant Néron et devant Adolf Hitler. Et qu'est-ce qu'il faut penser de ce genre de classement réellement ?
Alors, ils n'ont pas beaucoup de sens sur le plan psychiatrique. Ce qu'on évalue essentiellement dans ce classement, c'est l'aptitude qu'a eu une personne ou la latitude qui lui a été donnée de développer son pouvoir de manière démesurée. Si vous donnez un chapeau de Napoléon à un fou, il va se prendre pour Napoléon, ce qui signifie qu'il va considérer qu'il a un pouvoir absolu. Et donc, c'est ce qui est inquiétant dans le cas de Trump, c'est la manière dont cette personne est arrivée au pouvoir, effectivement, en adoptant des attitudes machiavéliques, agressives, impulsive, l'absence de réflexion, et tout ça est validé par un processus démocratique. Si vous comparez avec quelqu'un comme Obama, c'est effectivement l'antithèse. C'est quelqu'un qui développe très peu d'impulsivité, qui est peu agressif, qui est peu machiavélique et qui a des manières d'être, je vais dire, qui suggèrent une forme d'équilibre. Il est probable que si vous mesurez le taux de testostérone de Trump et de Obama et leur niveau de cortisol, vous allez avoir effectivement des surprises. L'un développe plus de testostérone, moins de cortisol que l'autre. Et vous aurez à ce moment-là des mécanismes qui font que votre agressivité, par exemple, hein, qui chez Trump est à fleur de peau, quand elle se couple au machiavélisme et à l'impulsivité, elle donne alors des résultats difficilement contrôlables et peu compatibles, à mon avis, avec l'exercice du pouvoir.
Ça veut dire quoi ? Vous êtes inquiet, Bruno Imbeck, de voir un tel personnage arriver à la tête de la plus grande puissance mondiale ?
Alors, je suis inquiet qu'il ait pu y arriver, ça c'est un premier point. Je ne suis pas nécessairement inquiet pour l'avenir, parce que je pense que les garde-fous démocratiques vont se mettre en place très rapidement, et que son niveau de prise de décision, qui lui semble illimité à lui pour le moment, parce qu'il est dans la démesure, dans la réalité des faits, va se heurter à des limites qui sont celles de l'exercice réaliste du pouvoir. Hein. C'est ce qu'Obama d'ailleurs suggère quand il exprime que bah, Trump, pour le moment, ne se rend pas compte de l'étendue de la réalité à laquelle il va être confronté.
Une dernière question, Bruno Humbecq. Est-ce qu'il y a la moindre chance, selon vous, que tout ce qu'on ait dit depuis le début de la Une soit faux, que Trump soit un personnage fin, intelligent, manipulateur et qu'il fasse semblant d'être le malade qu'on décrit, tout simplement ?
Alors, oui. Non pas qu'il soit intelligent, mais qu'il ait un type d'intelligence qui nous échappe. Ça, c'est toujours possible, parce que l'intelligence, c'est plus compliqué que ce qu'on imagine. Les modèles d'intelligence que l'on associe généralement à l'exercice de pouvoir, ils ne les manifestent visiblement pas. Le fait qu'effectivement, il ait développé des côtés arrogants, racistes, insupportables, populistes, nationalistes, agressifs, misogynes, indélicats, tout ce que vous voulez, souvent stupides et systématiquement maladroits, en font une personnalité beaucoup. Humainement peu intéressante, mais ce ne sont pas des diagnostics psychiatriques, ce sont juste des manifestations de comportement qui sont sans doute liées à la manière dont une démocratie un peu malade peut fonctionner, comme non plus comme une démocratie, mais comme une hémocratie, c'est-à-dire fonctionnant uniquement sur les émotions et sur l'impulsivité de l'électeur.
Est-ce que vous savez s'il est suivi ou pas par des médecins ou même par une armée de psychologues qui sont là à faire attention à la moindre de ses tweets? Enfin bon, c'est pas le cas apparemment.
Alors je suis absolument convaincu qu'il ne l'est pas, pour la bonne et simple raison que pour être suivi par un psychiatre, vous devez soit éprouver vous-même de la souffrance, ce qui n'est absolument pas son cas, soit en provoquer chez d'autres, ce qui n'est pas encore son cas non plus et qui ne sera probablement pas, parce que les garde-fous démocratiques, je le répète, vont à mon avis s'activer.
Bon, eh ben écoutez, on va essayer d'être aussi optimiste que vous, Bruno Humbecq. Merci beaucoup en tout cas pour votre décryptage. Axel, bon week-end.
Bon week-end.
Et à lundi.
À lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un additif alimentaire couramment consommé qui pourrait être cancérigène, le dioxyde de titane, ce colorant plus connu sous le nom de E171 et que l'on retrouve dans des biscuits, des chewing-gums ou encore des dentifrices, est classé depuis 2006 comme cancérigène possible par le Centre international de recherche sur le cancer. Des chercheurs de l'INRA montrent aujourd'hui chez le rat qu'une consommation régulière de dioxyde de titane favorise l'émergence et le développement du cancer colorectal, un faisceau de preuves qui s'affine autour de cet additif très décrié par les associations, avec des résultats qui justifient de nouvelles études chez l'homme. L'énigme des cercles de fées namibiens en voie d'être résolue. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que les scientifiques s'affrontent pour expliquer l'origine des trous de végétation de quelques mètres qui parsèment les déserts de Namibie. Les uns défendant l'hypothèse de colonies d'insectes, les autres celles de plantes assoiffées. Des écologistes mathématiciens pourraient bien mettre tout le monde d'accord. Après de multiples observations, ils ont remarqué que ces cercles de fées dessinent des motifs à plusieurs échelles et selon leur modèle mathématique, les deux hypothèses sont complémentaires, termites et plantes, dessinant toutes deux des motifs, mais à des échelles différentes. L'hypothèse doit encore être vérifiée, mais cette solution convient évidemment à la plupart des chercheurs. Et puis mâcher est bon pour la santé, c'est la surprenante conclusion d'une étude anglo-saxonne qui montre que la mastication nous protège en continu des infections buccales. Les chercheurs se sont rendus compte que les petites contusions causées par la mastication sur les gencives déclenchaient la production de cellules bien particulières, les lymphocytes TH17, une population de cellules nécessaires pour se protéger contre les infections. Si dans nos intestins la production de ces lymphocytes est activée par des bactéries, la mastication est donc un moyen simple de protéger notre bouche, qui est une des principales portes d'entrée pour les virus et les bactéries. Et c'est le club dans un instant, juste après le Flipside de Norah Jones. Mystery from long ago.
temperature's well past 102. Put the guns away or we're all gonna lose. Stand by or take flight. Eat or throw your peace pie. Walk on or be mine. Moments fly by and I cry.
Jones.
La tête au carré. Le club.
Et donc au menu cet après-midi de notre club des loups, des chercheurs et un enfant sauvage avec mes invités, vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. On commence justement avec les loups. Marilène Patou-Matisse, vous êtes préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, organisatrice des rencontres du Musée de l'Homme sur l'animal dans tous ses états. Et dans le cadre de ces rencontres, donc à l'auditorium Jean Rouge, vous proposez la dernière demi-journée jeudi prochain, c'est ça, à 14h, autour du loup et de l'agneau. Hein.
C'est-à-dire que c'est le dernier d'une série. Hein. Ce qu'on a souhaité faire avec Carole Vercoutet, c'est faire donc une rencontre, un séminaire qui prenne par exemple le statut des animaux comme l'année dernière ou cette année le loup et l'agneau pour aller du sauvage, c'est-à-dire on a parlé de la domestication, etc., pour aller aussi dans avec les historiens, quel était le statut du loup, de l'agneau pendant la période médiévale, pour aller jusqu'à plus récemment et finir bien sûr avec la problématique actuelle du loup, des bergers. Et donc c'est vraiment ça qui nous intéresse dans ces séries. L'année prochaine ça sera un autre thème, c'est de vraiment d'aller du plus lointain, c'est-à-dire jusqu'à l'actualité. Et ça nous paraissait intéressant de mélanger des ethnologues, des historiens, des psychanalystes, des spécialistes. Hier, on avait les contes par rapport au loup, donc c'était vraiment passionnant. Aussi la psychanalyse, parce qu'avec le loup, c'était important. Par exemple, jeudi prochain, des bergers et des gens qui connaissent bien les loups et aussi des bergers. Et donc, il y a notamment un jeune berger, Julien Vallet, qui va venir pour nous parler de son expérience, de son vécu. Il y a Eric Bas aussi. Et là, c'est intéressant parce que Eric Bas, il a à la fois observé des loups en Roumanie, en Pologne, et il est devenu lui-même berger. Donc, et ce sont pas des anti-loups du tout. C'est pour expliquer un petit peu leur vie et cet esprit passe commun à partager entre les bergers et le loup.
Alors Pierre Jouventin, vous êtes avec nous en duplex des studios de France Bleu Hérault à Montpellier. Vous êtes éthologue, ancien directeur de recherche CNRS au laboratoire d'écologie de Chizé. Donc jeudi, vous interviendrez autour de cette question. Est-ce qu'on peut gérer le loup en France? Et c'est vrai qu'au regard de la situation dans notre pays par rapport à d'autres pays européens qui gèrent quand même pas mal la question, c'est quand même très compliqué chez nous, hein.
Ben oui, il semblait y avoir une incompatibilité entre le loup et l'homme en France uniquement, parce qu'en Italie, il y a environ 1000 loups, et au contraire, ça attire des touristes à 200 km de Rome. Et en Espagne, il y en a environ 2000, et ça se passe très bien depuis toujours. Or, en France, on les a tous éliminés, et ils sont en train de revenir par l'Italie. Et évidemment, ils vont très vite, sont des surdoués, les loups, un peu comme l'homme, hein. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois très opportunistes, sont des super prédateurs, et donc ils sont très difficiles à éliminer comme ça, et donc le réflexe habituel de l'éleveur, c'est évidemment de les éliminer. Donc il y a actuellement, la France a perdu la culture du loup, et elle a du mal à la retrouver.
Oui, alors pourquoi on est en retard justement sur ce problème par rapport à la défense des animaux, hein, tout simplement?
Ben je pense que c'est pas seulement le loup, hein, c'est qu'on est en retard d'environ un demi-siècle par rapport aux pays anglo-saxons. Par exemple, l'année dernière, il y a eu le premier enseignement de droit des animaux en France, alors qu'en Amérique du Nord, ça date des années 70.
Alors, il y a pas mal de questions déjà des auditeurs sur ce thème. Paul nous dit, est-ce que le loup a un statut en France? Quel est-il en tout cas? pour vous, Pierre Jouventin ?
Au niveau européen, il est strictement protégé. Le problème, c'est que les gouvernements qui veulent faire plaisir aux éleveurs et aux élus ruraux préfèrent évidemment les éliminer. Alors, la loi l'autorisait dans les cas extrêmes, mais actuellement, on tire sur tout ce qui bouge. Donc, il y a un problème. On se demande pourquoi en France c'est impossible, alors que dans notre pays, ça se passe très bien.
Jean-Paul demande, est-ce que le loup est le bouc émissaire des problèmes du pastoralisme en France, Marie-Hélène Patou-Mathias?
Ben, oui. Justement, c'est ça un petit peu qu'on essaye de voir, parce que ce problème du loup, il s'enracine, ça c'est notre vision, il s'enracine très loin. C'est-à-dire que c'est la peur du loup, etc. Donc, c'est une espèce de crainte aussi qui a été un peu créée. Je veux dire, c'est quelque part, ça fait partie des mythes. Et donc là, il y a cette peur, et je pense qu'une meilleure connaissance aussi du loup, les gens ne connaissent plus bien le côté, vraiment la réalité du loup, et je pense que c'est ça qui à mon avis, ajoute à ce problème. C'est-à-dire que même si des gens qui sont complètement dans un milieu urbanisé et tout, ils ont une espèce de peur du loup, hein, parce qu'ils ne le connaissent pas, et je pense qu'il faut peut-être faire connaître le loup autrement que par ce côté mythique de la peur du loup.
Ben, il faut peut-être s'y habituer, parce qu'on va écouter justement un extrait des infos très récemment sur France Inter, c'était même cette semaine, au sujet de l'arrivée du loup en région parisienne.
Allô ? À l'autre bout du téléphone de Manuel Atman, un des membres de son réseau, le président d'Alliance avec les loups, a reçu ce matin un appel d'un habitant de Seine-et-Marne qui aurait photographié un loup il y a 4 jours.
Vu comment il me l'a décrit, masque labial blanc, queue touffue, il y a deux photos, une photo de lui de profil et une photo de dos. C'est pas un renard. Hein.
Cet ancien militaire qui traque d'habitude l'animal dans le massif central en est sûr, au moins 3 loups sont présent en Île-de-France. Son réseau a trouvé des empreintes et surtout 2 carcasses de chevreuil dans la forêt de Rambouillet.
Colonne vertébrale brisée, consommation des viscères rouges comme le cœur, les poumons. Et ça, c'est typique du loup.
Pierre Jouventin, est-ce que vous y croyez ? Parce que c'est très controversé, justement, cette présence du loup en région parisienne. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
Je ne peux pas trancher sur ce cas particulier, mais il est bien évident que le loup va coloniser toute la France. Parce qu'un loup, ça peut faire 100 à 200 km dans une nuit. Donc comment voulez-vous tenir à l'abri un pays comme la France ? Ce n'est pas possible. Ouais. Or, il y en a en Espagne, il y en a en Italie, il y en a en Suisse, il y en a en Allemagne. Pourquoi voulez-vous qu'il n'aille pas en France ?
Ouais. Donc il y a une expansion du loup.
Ah ben actuellement, il y a une colonisation de la France par le loup qui reprend sa place. Il y avait, on suppose, environ 6000 loups en France, il y en a maintenant 280.
Oui. Marie-Hélène Patou-Mathias.
Oui, ben c'est-à-dire que justement, c'est un petit peu le débat qu'il y aura jeudi prochain, c'est comment faire cohabiter sur les mêmes territoires l'homme et le loup, et peut-être par des expériences, en allant regarder justement à l'étranger comment ça se passe, peut-être qu'en France, on peut là justement trouver quelque chose qui convienne à tous. Parce que c'est clair aussi que c'est, à mon avis, par le dialogue qu'on résoudra le problème. Parce que si on n'arrive pas à vraiment calmer le jeu, il peut y avoir des problèmes. Des éleveurs qui vont s'armer, qui peuvent devenir aussi dangereux. Parce qu'il faut comprendre aussi le côté des bergers. Donc je pense que c'est vraiment un débat, une discussion et des associations entre elles, à la fois les associations pro-loup et les associations qui défendent les éleveurs et les bergers.
Pierre Jouventin, pourquoi c'est une erreur de tuer le loup d'un point de vue de l'organisation sociale même de l'animal ?
Bien, les derniers résultats, depuis quelques mois, on a des résultats, on pensait, mais maintenant on en a la preuve, que quand on tire sur une meute de loup, on fait éclater la meute, et donc d'une meute, on en fait plusieurs. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut obtenir. Et deuxièmement, quand on tire ceux qui s'avancent le plus, c'est-à-dire généralement les dominants, eh bien on fait perdre à la meute la culture de la chasse des animaux sauvages qui est la plus difficile. Donc ceux qui restent qui s'éparpillent, ce sont ceux qui ne savent pas chasser l'animal sauvage. Ils ne seront pas sur le plus facile, c'est-à-dire le mouton comparador.
Marie-Hélène Patou-Mathias.
Oui, justement, en discutant avec les éleveurs et avec les spécialistes des loups, on s'aperçoit aussi que peut-être que dans le système de ce qu'on appelle les gardiens de nuit, c'est-à-dire au niveau des bergers, qu'il y ait d'abord plus de bergers, qu'ils soient avec leurs moutons, et aussi qu'il y ait des gardiens de nuit, c'est-à-dire que ce qui se passe par exemple en Roumanie, où ils dorment à plusieurs, il y a des chiens, mais aussi des gardiens de nuit. Et la deuxième chose, comme vient de dire Pierre, c'est que on peut pas tuer vraiment un loup comme ça au hasard dans la harde. Il faut vraiment sélectionner peut-être certains qui sont beaucoup plus agressifs, ça c'est aussi des propositions, donc ne pas tirer au hasard, et je crois qu'il y a vraiment une réflexion et un travail de connaissance, je reviens sur ça me paraît très important de la réalité du loup en tant qu'espèce zoologique.
Ouais, comment on appelle le chien qui est justement dans les troupeaux,
Pierre
Jouventin, comment on l'appelle ?
Alors c'est le patou,
qui est
un chien qui a été sélectionné par l'homme dans les Pyrénées pour lutter contre les grands prédateurs, les ours et les loups, mais qui a été oublié et puis qu'on est obligé de réhabiliter actuellement.
Voilà.
Mais le problème, c'est qu'il faut aussi, c'est une culture, c'est-à-dire qu'un patou, il ne faut pas le laisser dans la maison, parce que c'est un chien qui doit rester au milieu du troupeau.
Voilà.
Si vous le laissez dans la maison, ben, il protège la maison, il ne protège pas le troupeau. Donc c'est tout encore une autre culture. D'autre part, il faut voir qu'actuellement, il y a quand même, malgré ce qui vient d'être dit, là, il y a quand même un a priori favorable de la part de la population. Quand on fait les sondages, on a à peu près 80% des gens qui estiment que le loup doit vivre en France, il doit faire partie de la faune française, et d'autre part, il n'y a pas de risque, c'est fini, l'histoire du chapeau en rouge, il n'y a pas de risque sur l'homme. Par contre, c'est évident qu'il y a un problème, mais c'est surtout un problème économique, avec pas les bergers, parce que les bergers, c'est un peu les ouvriers, mais avec les éleveurs, qui eux cherchent du rendement, et évidemment, ça coûte plus cher d'avoir des bergers qu'il faut payer que ne rien avoir. Donc actuellement, jusqu'à présent, les éleveurs français avaient tendance à laisser les animaux en grand troupeau plus ou moins seuls, et maintenant il faut absolument être à côté, donc ça change tout de suite le coût.
Bon, ben nous on est bien gardés puisqu'on a notre patou dans le studio,
voilà.
Marilène, patou, Mathis.
J'ai bien compris qu'il faut que je m'en sauvage. Je vais m'en sauvager.
Mais ça vous déterra pas du tout. Rencontre donc sur l'animal dans tous ses états autour du loup, donc c'est jeudi 14h-17h, l'auditorium Jean Rouche du Musée de l'Homme. Et donc ce sera l'occasion de croiser Pierre Jouventin et donc des bergers qui seront également sur place. Allez, dans un instant, nous parlons justement de Victor de l'Aveyron qui a dû croiser, c'est sûr, des loups dans la forêt au XVIIIe siècle. Elle s'appelle Laura Cahen.
La tête au carré. Le club.
sur France Inter.
Jean-Luc Chappet, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous publiez donc chez Fayard Sauvagerie et Civilisation, et puis un sous-titre évidemment qui nous parle, une histoire politique de Victor de l'Aveyron. Victor, c'est l'enfant sauvage qui s'est imposé depuis longtemps comme une figure incontournable de l'imaginaire collectif. Est-ce qu'il a croisé des loups, tiens, dans la forêt? Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que je le disais tout à l'heure comme une affirmation, mais...
En fait, depuis les grandes chasses du XVIIe siècle, déjà, il y avait beaucoup moins de loups en France. Et heureusement pour lui, il n'en a pas croisé. Hein, parce qu'à moi d'imaginer que ce petit enfant avait pu être élevé par une famille loup, je pense que ce serait mal terminé.
Ouais, il a été découvert en 1799. Et vous dites que, paradoxalement, il a laissé très peu de traces, alors qu'il a été vraiment une attraction, à la fois pour le public, pour les scientifiques, pour les chansonniers. Et on dispose de très peu d'informations à son sujet. C'est incroyable, non?
Oui, c'est toujours un petit peu difficile pour un chercheur quand il s'aperçoit que quand il travaille sur son objet, il n'y a quasiment pas d'archives ni de sources. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un vrai étonnement, en particulier qu'il y a très peu d'images. Hein, alors qu'on sait que pendant la Révolution, justement, les acteurs, les phénomènes se sont fait énormément représenter sous forme de gravures, etc. Là, oui, quasiment rien. Il y a une gravure du début du XIXe siècle, mais il n'y a quasiment pas. Et c'est vrai que dans les archives, hein, Victor est un objet invisible.
Oui. Alors justement, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a cette gravure, par exemple, qui est la une de votre livre.
C'est ça. Hein, c'est ça. Donc c'est une gravure qui a été représentée et publiée dans un ouvrage donc de Jean-Marc Itard, son médecin et pédagogue, en 1808. Hein, mais à l'exception de cette gravure, il n'y a quasiment rien.
Alors ce qui vous intéresse justement, c'est le climat, l'environnement, le contexte politique. Pour nous dire quoi d'ailleurs au fond autour de cet enfant sauvage, hein? C'est la question de l'autre aussi. Hein.
Exactement. Je pense que ce qui est intéressant quand on fait une histoire politique, c'est d'abord de replacer l'objet dans la courte et la longue durée. Hein. Lorsqu'on définit un sauvage, c'est pas simplement définir l'autre, c'est aussi se définir soi-même. Et moi ce qui m'a intéressé, c'est justement de resituer cette histoire dans un moment de basculement politique, hein, on est en moment de la Révolution française, mais surtout entre un moment républicain, la République directoriale, un moment qui n'est pas forcément très bien connu d'ailleurs, et puis on va basculer vers une autre séquence politique, la séquence du consulat puis de l'Empire, autour de l'incarnation de la figure de Bonaparte, dont on parlait tout à l'heure.
La figure de l'autre, ça vous parle évidemment, Marie-Hélène Patoumatis. Hein. Oui, Néandertal, c'est aussi une figure de l'autre, hein,
exactement,
dans l'histoire humaine.
Tout à fait. Non, mais je trouve ça absolument passionnant, parce que c'est vrai que ce côté du sauvage qui veut être rejeté par une société parce qu'elle a peur justement du sauvage, et l'autre est souvent assimilé à cette figure du sauvage, donc du non-civilisé.
Ouais, et c'est donc la question du sauvage à toutes les époques aussi, hein, qui vous intéresse et qui est en filigrane justement de ce livre, à travers donc le destin de cet enfant qui a été relégué quand même, il faut le rappeler, en 1807 au statut d'idiot. Hein.
Exactement. En fait, on est à la croisée de plusieurs traditions scientifiques en France. Je pense qu'il y a toute la tradition issue des Lumières, hein, qu'on va retrouver plus tard, c'est-à-dire en fait, face à un enfant considéré comme sauvage, est-ce qu'on peut le civiliser ou bien est-ce qu'on ne peut rien faire? Donc vous avez les deux tenants, en quelque sorte, de ces deux écoles qui vont s'affronter autour de l'enfant. Alors au tout départ, Jean-Marc Itard, hein, celui qui est très connu, qui est incarné par François Truffaut dans le film, eh bien, fait une sorte de pari qu'il est possible en effet d'élever, d'éduquer son enfant, alors que un médecin très connu à l'époque, Philippe Pinel, qui était directeur de la Salpêtrière, qui avait mis en place pendant la Révolution le fameux traitement moral, ce que certains considèrent comme les débuts de la psychanalyse, Pinel avait dit que cet enfant, on ne parviendra jamais à l'éduquer. Hein, Itard fait ce pari qu'il est possible de transformer, de perfectionner, selon les termes de l'époque, l'enfant. On est là dans la tradition des idées des Lumières et dans la tradition du projet révolutionnaire porté en particulier par la République.
Et d'ailleurs, plus proche de nous, vous dites à quel point la démarche d'Itard aussi a intéressé les psychologues dans les années 80, là, très récemment, qui se sont repenchés vraiment sur le cas de l'enfant sauvage.
Tout à fait. Hein, il faut savoir que l'enfant sauvage devient très rapidement, en quelques semaines, un phénomène que les contemporains appellent un phénomène extraordinaire. Ça va mobiliser le monde politique, le monde administratif, le monde scientifique.
On se déplace de partout pour
exactement,
venir le voir.
Certains viennent d'Europe pour regarder, observer cet enfant. Et à Paris se met en place une sorte de communauté scientifique mêlant des linguistes, des anthropologues, des médecins pour observer l'enfant et tenter naturellement de le transformer.
Oui.
Et quelques années plus tard, et je finis là-dessus, quelques années plus tard, justement, d'autres scientifiques, en particulier des scientifiques viennois, Gall et Spurzheim, qui mettent en place ce qu'on appelle
la
phrénologie et la craniologie, eh bien ce sont eux qui les premiers vont dire, en tâtant le crâne de Victor, que cet enfant est irrémédiablement un idiot.
Ouais, ça fait penser à la Vénus hautentote aussi, justement,
Marie Patoumatis. Les sauvages qu'on exhibe, les sauvages qu'on mesure.
Tout à fait.
Mais vous la citez.
Exactement, mais en fait, la grande différence, c'est que les scientifiques s'intéressent à Victor comme être vivant, En 1815, les scientifiques du muséum s'intéressent à la vie du Totentot comme cadavre. Et là, on a là justement un vrai déplacement, une vraie transformation scientifique.
Vous avez évoqué François Truffaut. C'est 1970, ce film qui a marqué des générations entières, L'enfant sauvage.
Canton de Saint-Cernin. Un enfant de 11 ou 12 ans, entièrement nu, quasiment sourd et muet, cherchant des glands et des racines dont il fait sa nourriture, a été rencontré dans les bois de cônes par trois chasseurs qui s'en sont saisis au moment où il grimpait sur un arbre pour se soustraire à la poursuite. Conduit dans un hameau du voisinage. Si je pouvais faire venir cet enfant à Paris, il me serait possible, en l'examinant, de déterminer enfin quels sont le degré d'intelligence et la nature des idées d'un adolescent, privé dès son enfance de toute éducation pour avoir vécu entièrement séparé des individus de son espèce.
Et c'est ce qu'il va faire, Jean-Marc Gaspard Itard, justement, médecin pédagogue qui était chargé de l'éducation. Qu'est-ce qu'il a pu faire réellement avec Victor?
C'est intéressant parce que justement, Itard, qui était un médecin militaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est justement capable d'observer, mais aussi d'intervenir de manière un petit peu clinique sur l'enfant, va développer toute une stratégie pédagogique assez novatrice, utilisant tout un ensemble de techniques. On pense à la musique, on pense à tout un ensemble de techniques un peu pédagogiques, des promenades, etc., pour essayer justement de communiquer avec l'enfant. Le diagnostic qui avait été porté sur l'enfant, c'est qu'il avait été isolé et que cet isolement avait provoqué une sorte d'handicap, en quelque sorte. Ouais. Il faut savoir, vous voyez, c'était tout un ensemble d'interrogations qui s'inscrivaient à le moment où on se parlait un petit peu du grand problème des sourds et muets, du grand problème des aliénés.
Il y avait une prise en charge, déjà à l'époque, très concrète.
Et de manière assez novatrice. C'est-à-dire, la période révolutionnaire a fait émerger tout un ensemble d'idées pédagogiques neuves qui ont été appliquées dans les différents établissements. L'hôpital de Charenton, où était alors interné un autre monstre de l'époque, qui le devient à ce moment-là, qui était le Marquis de Sade. Il y avait l'Institut National des Sourds et Muets, où différents instituteurs expérimentaient ces techniques pédagogiques nouvelles.
Oui, alors justement, Jean-Luc Chappet, vous dites que l'enfant n'a pas été découvert, Victor n'a pas été découvert, il a été inventé et construit dans le contexte politique particulier de cette époque, justement.
Oui, alors là, c'est un petit peu une hypothèse, mais je dirais qu'on peut imaginer que cet enfant a été abandonné pendant la période révolutionnaire.
Il y avait beaucoup d'abandon, d'abord.
Il y avait beaucoup d'abandon.
Dans toutes les couches sociales.
Exactement. En particulier à partir de 1795, où la France est frappée par une véritable crise économique et sociale, et on voit une recrudescence de l'abandon d'enfants. Donc cet enfant a dû vivre à la marge, en fait, d'un village. Et puis à un moment donné, cet enfant est capturé une première fois, puis une deuxième fois. Et est capturé dans un moment politique très intéressant, en novembre 1999, quelques semaines après le coup d'État bonapartiste. Et en fait, ce qui va devenir intéressant, c'est qu'on est dans un vide politique, où de très nombreux acteurs, aussi bien des scientifiques que des administrateurs, vont tenter de s'emparer de ce phénomène extraordinaire pour se mettre en valeur auprès des autorités. Et très rapidement, en fait, une véritable machine médiatique s'emballe, où les journaux parisiens parlent de l'enfant qu'il faut venir à Paris. Sur place, à Toulouse, il y a un administrateur qui dit « attention ». Nous ne sommes pas forcément face à un sauvage, mais malgré en quelque sorte ces précautions, le ministre de l'Intérieur, Lucien Bonaparte, va faire venir l'enfant sauvage à Paris et va en quelque sorte, ce que j'appelle inventer le sauvage, en tout cas provoquer cette émulation autour de ce phénomène.
Donc il y a des mystères, il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de cet enfant, et puis toutes les hypothèses sont envisagées, du sauvage absolu jusqu'au charlatan quand même.
Exactement. Il y a des grands débats dans la presse, certains le disent sourd et muet, d'autres le disent en effet issu de cette grande famille des sauvages, et puis d'autres en viennent à se poser la question si on n'est pas face à un charlatan en effet.
Geneviève Anouri.
Oui, je me demandais juste, est-ce que lui disait des choses? Est-ce qu'il avait des souvenirs? Ou est-ce que l'enfant lui-même pouvait se souvenir de quelque chose? Est-ce qu'on a essayé de l'interroger?
En fait, malheureusement, c'est l'échec pédagogique d'Itard, qui ne parvient qu'à lui faire prononcer quelques voyelles. Néanmoins, il parvient à lui faire faire des choses. Ça, c'est important. Il y a un certain nombre de gestes. D'ailleurs, qui sont assez bien montrés dans le film. Là-dessus, la Truffaut s'appuie bien sur les différents mémoires qui ont été publiés par Itard. Mais c'est vrai que le grand échec, c'est qu'on n'ait pas réussi à faire parler l'enfant.
Ni à le faire dessiner.
Alors, non plus. C'est ça un petit peu le problème.
Alors, en 1800, il y a la Société des Observateurs de l'Homme. C'est quoi? C'est une espèce d'école d'anthropologie ou pas?
Alors, c'est une société savante qui, en effet, naît en 1800, dont le projet scientifique est de se réunir. Alors là, encore plusieurs spécialistes pour fonder cette anthropologie, cette science générale de l'homme. On s'intéresse aussi bien aux sauvages de l'intérieur, l'enfant sauvage, qu'aux sauvages de l'extérieur. Ce sont eux qui vont organiser une grande expédition maritime vers l'Australie. Mais on s'intéresse s'intéresse à tout un ensemble de personnes encore considérées comme sauvages. Je parlais tout à l'heure des souris muets, des aliénés, tout un ensemble comme ça d'individus qui sont considérés comme à la marge, mais susceptibles d'être civilisés, selon les termes de l'époque.
Geneviève Anoury, vous me disiez tout à l'heure, il y a cette superbe idée de Gottlieb sur l'enfant sauvage qui est très drôle.
Un point de vue assez drôle, oui, parce que donc on voit l'enfant sauvage au début qui est beau, qui est impressionnant et tout ça.
Une belle beauté sauvage.
Voilà, il va être civilisé et donc il va devenir ce petit gars avec ses cheveux courts, son petit crayon derrière la tête, son petit dossier à la main. Et c'est très amusant comme point de vue sur ce que c'est que...
Marie-Hélène Patou-Mathis qui nous parlait de l'ensauvagement tout à l'heure, la beauté de l'ensauvagement, justement.
Exactement.
Vous posez une question tout à l'heure justement à Jean-Luc Chappet pour savoir ce qu'était devenu Victor.
Mais oui, parce que c'est intéressant, je ne sais pas s'il y a vraiment des documents.
Alors ce que l'on sait, c'est qu'en 1807, pour des raisons aussi bien économiques que pour des raisons de mœurs, on est sous l'Empire, il y a une sorte de reprise en main par l'administration des différentes institutions, et des institutions philanthropiques, etc. Et l'enfant va être accusé en particulier de troubler l'ordre moral de l'Institut National des Sourds et Muets. Donc le ministre décide d'arrêter l'entreprise pédagogique, on ne paie plus Itard. Donc il va être confié à une veuve qui va en quelque sorte s'en occuper jusqu'à sa mort au début des années 1820. Mais c'est vrai qu'après, progressivement, personne n'en parle et on perd complètement sa trace. Et là, naturellement, tous les fantasmes, hypothèses sont permis. Et c'est vrai qu'il y a eu bande dessinée, roman écrit sur la fin de Victor, qui serait parti de Paris, etc. Et qui serait devenu un autre homme civilisé. Bon, il y a beaucoup de choses, on ne sait rien.
Ouais, donc il aurait possiblement terminé sa vie aussi chez cette femme.
Exactement. Avec une paillasse, on a la description, une paillasse, et elle avait des enfants, donc on peut imaginer qu'elle s'en est occupée. Mais en tout cas, il meurt véritablement seul, quoi.
De maltraitance, peut-être.
Ouais. Voilà, c'est ce livre vraiment très intéressant, parce qu'évidemment, il nous touche tous, Victor, cet enfant sauvage, il fait résonner des choses aussi.
Je veux me rouler pour acheter le livre.
Oui, absolument. Et vous dites à quel point, et aussi, il fait résonner des questions sur nos origines, parce qu'il y a ça aussi, les origines du langage, les origines de l'humanité. Et c'est son histoire, donc, que vous racontez dans la collection L'épreuve de l'histoire chez Fayard, s'appelle Sauvagerie et civilisation, mais il faut lire le sous-titre, faut pas l'oublier, une histoire politique de Victor de l'Aveyron. Jean-Luc Chappet, vous restez avec nous, on va parler de chercheur dans un instant, avec une amoureuse des chercheurs et une physicienne. Raspberry Beret avec Prince à l'instant sur France Inter. Et pour terminer ce club, eh bien, nous allons nous poser une question. Pourquoi cherchez-vous? C'est la question d'une mini-série à découvrir sur la web TV d'Univers Science et que vous avez réalisé, Geneviève Anoury. 23 épisodes, chacun faisant 3 minutes, avec donc une série d'entretiens, des chercheurs spécialisés dans tout un tas de domaines. L'astronomie, le cerveau, la mer. Et puis donc le but, c'est, vous nous le disiez, hein, d'explorer la pensée scientifique. Savoir ce qui se cache dans la boîte crânienne de ces drôles de chercheurs.
Voilà, parce que c'est vrai que moi, quand, disons, je me frotte comme ça à la façon dont pensent les chercheurs, ça m'apprend plein de choses, en fait. Ça clarifie ma propre pensée. Et puis, ils me font voyager, en fait. Ça suscite beaucoup mon imaginaire. Et c'est ça que j'ai eu envie d'explorer, en fait, en les questionnant. Et puis, l'idée, bon, un peu spécifique, donc, de ces interviews, c'était de les mettre dans un décor peint. Et pour moi, cette peinture animée est comme une résonance avec la pensée en mouvement du chercheur. Ils sont dans une sorte de décor mental. Et du coup, je pense que c'est une façon d'emmener le spectateur aussi dans ce monde-là, quoi.
Citez le nom du peintre, d'ailleurs, qui a fait un travail remarquable.
Remarquable, donc c'est Patrick Plotin. Et en fait, on a vraiment travaillé ensemble. L'idée du décor s'est faite petit à petit, c'est-à-dire que déjà au départ, quand j'interrogeais les chercheurs, j'avais une idée du scénario, donc de ces peintures. Et puis quand il y a eu le tournage, il a fallu qu'il fasse des mouvements.
Qu'il fasse faire des mouvements aussi aux chercheurs eux-mêmes.
Voilà, en fait, pendant leur interview, si vous voulez, que j'ai fait l'interview. Et puis, il fallait que j'imagine le scénario de ces peintures. Et avec eux, on y a réfléchi. Et puis, ils devaient donc faire des mouvements sur un fond blanc, dans l'espace, sans aucun objet. Et voilà, comme les acteurs d'Hollywood, mais sans les moyens.
Myriam
et
Pathier.
Ça a été assez drôle.
Myriam Pathier-Lecoeur, vous faites partie justement des chercheurs filmés par Geneviève Anoury en tant que physicienne du CEA. Vous êtes donc spécialiste de la détection électromagnétique de l'activité neuronale au niveau cellulaire. Donc, c'est vrai qu'elle vous a fait faire des trucs un peu bizarres, non, pour le tournage,
hein? Oui, tout à fait. C'était un format qui nous faisait vraiment sortir du cadre dans tous les sens du terme, à la fois par l'approche, parce que c'était pas, contrairement à certains exercices de communication et de vulgarisation de notre travail, on n'était pas sur le plan technique, on était plus sur le plan humain, sur la démarche, sur l'intime, sur finalement des choses qu'on a peu l'habitude de verbaliser. Et avec une mise en scène à un moment donné, effectivement devant un décor blanc qui nous sortait un petit peu d'un rôle habituel, mais qui a permis aussi, je pense, au résultat, avec les peintures animées, de justement mettre en scène tout l'aspect imaginaire et ce côté-là qui est extrêmement important dans la démarche du chercheur.
On va écouter tout de suite le teaser de la série.
De la même manière qu'on a besoin d'artistes, qu'on ne peut pas envisager un monde sans littérature, sans peintre, sans poète, on ne peut pas envisager un monde sans chercheurs.
Il y a évidemment toujours la méthodologie qui nous trace un chemin et qui permet justement d'avancer malgré le doute.
C'est un doute qui est toujours là au fond, tapis, prêt à bondir et vous mordre les fesses.
Et puis il y a des moments de grâce. Ce moment où on a l'impression qu'il y a un voile qui se déchire et qu'il y a quelque chose qui apparaît.
On peut tomber amoureux d'une molécule. Il n'y a pas de problème.
C'est vraiment magique.
On peut tomber amoureux d'une molécule, hein, évidemment. Ah, on garde toute cette image en tête.
Il est extraordinaire. Et,
qui a prononcé
c'est
cette
Patrick
phrase?
C'est Patrick Curmi, en fait, donc, qui est du Génopole. Et voilà, c'était vraiment, c'est un très très joli film. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs du Génopole, de l'IFREMER, du CEA et de l'EHESS. Il y a des sociologues et historiens qui aussi, en fait, ont cet aspect scientifique. Ils en parlent, d'ailleurs, c'est assez intéressant.
Donc une parité des disciplines et des sexes.
Tout à fait.
Également.
C'était
votre préoccupation. Ouais. Myriam Pantier-Lecoeur, pourquoi cherchez-vous? C'est une question qu'on se pose au tout départ, quand on commence ce métier de scientifique ou pas?
Pas vraiment. Enfin, dans mon cas, non. C'est-à-dire que j'ai commencé par me dire je vais être chercheur. Parce que j'avais une vocation très précoce et très lumineuse, donc c'était vraiment le point que je voulais suivre. Et finalement, c'était aussi ce qui était intéressant dans ce projet avec Geneviève Anoury, c'est que la question pourquoi est-ce qu'on cherche, on se la pose pas finalement si souvent que ça. Ouais. Et quand on prend le temps de se la poser, on entre dans des choses qui sont finalement essentielles dans ce qu'on fait, à la fois dans notre travail, qui la recherche, c'est un travail qui a envahi un petit peu toute la vie, mais effectivement, d'une manière générale, par rapport à notre démarche globale, par rapport au monde qui nous entoure, notre curiosité.
Mais quand même, est-ce que ce qui vous anime pas au fond, c'est la réponse à cette question? C'est-à-dire, pourquoi vous cherchez? Ben, pour trouver quelque chose, non? Pour transformer votre discipline? Pour apporter une contribution?
Ça, c'est...
Pour enrichir la connaissance?
C'est un chemin, en fait. Je crois qu'on cherche pour parcourir ce chemin-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas un but identifié avec un petit drapeau à l'arrivée. De toute façon, nos disciplines demandent toutes une grande humilité par rapport à ce qu'on peut éventuellement apporter. Mmh. Je ne sais pas si on sera en mesure de l'évaluer, même quelques années après.
Ça, c'est la recherche fondamentale que vous décrivez, hein, au fond.
Oui, hein. Mais...
C'est une recherche sans finalité particulière.
Ah, c'est la finalité de la connaissance.
Voilà, ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est, je pense, dans l'histoire de l'homme, extrêmement important et qui est extrêmement durable également. Personnellement, si je me pose la question pourquoi je cherche parce que c'est une activité merveilleuse de chercher. On est tout le temps dans la connaissance, dans l'observation du monde qui nous entoure, et puis on vit des grands moments de joie. Et
quand on trouve peut-être aussi,
quand on trouve quelque
quand
chose,
même,
c'est une petite étape, mais c'est une étape sur un chemin. Ouais. C'est effectivement un chemin qui continue et qui continuera après nous.
Il y avait un des chercheurs là qu'on entendait qui parlait du moment de grâce,
Geneviève Hanouri. Oui, hein, en fait, il y a des moments de grâce, et je pense que c'est revenu chez tous que le chemin, le cheminement, le fait d'être dans cette posture-là par rapport au monde donne une vraie joie qui peu importe à la limite si on trouve ou ce qu'on trouve, ça arrive de toute façon assez rarement, et c'est vraiment le chemin. Et aussi ce que je voulais dire par rapport à la recherche fondamentale, parce que Myriam Pantier-Lecœur est aussi expérimentalistrice, voilà.
Et
donc elle elle fabrique des et donc il y a aussi le fait de se frotter au réel, vraiment à la matière. Et c'est pas juste aussi la recherche, bien sûr, il y a tout cet aspect intellectuel, mais il y a aussi, et il y en a d'ailleurs, il y a Marc Péchanski qui dit à un moment donné, on est des manuel avant d'être des intellectuels. Et il y a aussi cette confrontation qui apporte aussi une forme de joie. Et il y avait d'ailleurs quelque chose qui a été un crève-cœur qu'on a dû couper dans le film de Myriam, qui était à un moment donné, elle dit... Donc elle raconte, bon, c'est une femme, elle a une idée pour arriver à réussir une expérience qui est de rajouter un tout petit peu de vernis à ongles pour pouvoir terminer un truc mais extrêmement sophistiqué. Et je trouve que ça, il y a ceux qui parlent du petit bout de ficelle, comme Stefano Panebianco du CEA, et le scotch, tout ça. Et donc il y a un mélange comme ça parler d'humilité, en fait, d'être avec des choses extrêmement sophistiquées, des choses extrêmement intellectuel et en même temps des choses très très
très concrètes.
En fait. Ouais.
C'est la petite touche féminine, alors le vernis à ongles.
Je dirais c'est plutôt la petite touche de bricolage qui est un peu nécessaire sur les expériences.
Marilène Patoumatis, comme préhistorienne, vous cherchez quoi, vous, finalement? Les origines de l'humanité? On en parlait un petit peu tout à l'heure, déjà.
Oui, ben là, c'est... Bon,
vaste,
c'est
programme.
Très prétentieux, hein. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est cette découverte, quand même. C'est-à-dire, c'est ce questionnement qu'on a en permanence. Et je crois que, quelque part, on cherche aussi, parce que on cherche déjà à l'intérieur de soi, aussi, quelque part. Je ne crois pas que ça soit simplement pour l'extérieur. Mais je pense aussi qu'il y a cette façon de percevoir qu'on est un maillon. Donc, même si on n'apporte pas grand-chose, à un moment donné, on est un maillon de cette chaîne qui aboutit à plus de connaissances et à plus de reconnaissance de l'autre dans sa diversité.
Voilà, que cherchez-vous? Donc, c'est la Web TV d'Univers Science. Il y a déjà 13 épisodes qui sont en ligne.
Il y a déjà 12 épisodes en ligne. C'est pourquoi cherchez-vous, justement,
pourquoi cherchez-vous?
Et pas que cherchez-vous, parce que c'est vraiment sur le questionnement et pas sur ce qu'on cherche.
Ouais. Et puis, la science se livre, ce sera le 24 janvier jusqu'au 5 février, à l'Espace du Temps des Cerises, à Issy-les-Moulineaux, hein, pour en dire un tout petit mot très vite.
Et le 25 janvier, donc à 19h30, il y aura une projection de La Nuit du Vivant, qui est une série donc, que j'ai faite avant, qui est aussi visible sur universscience.tv.
Merci à tous, passez un très bon week-end.